Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour, 12 juillet 2023. Adoption d'une version remaniée du Pacte Vert, règlement européen pour la restauration de la nature. Qu'est-ce que ce Pacte Vert? Quelle est la portée de la version approuvée ce 12 juillet au Parlement européen? Y a-t-il eu de grands changements de ce texte depuis sa proposition en juin dernier? Quelles ont été les motivations à faire évoluer ce texte? Est-ce que les mesures adoptées auront un impact positif? Sont-elles à la hauteur de la crise du vivant que nous traversons actuellement? Le Pacte Vert est un règlement contenant des propositions inédites sur notre territoire et visant à restaurer les écosystèmes endommagés et à ramener la nature dans toute l'Europe, depuis les mers et les terres agricoles, jusqu'aux forêts et aux milieux urbains. Il est porté par la Commission de l'Environnement européenne. En juin dernier, le texte traitait de points fondamentaux pour restaurer une majeure partie des écosystèmes dégradés, comme augmenter des espaces verts en ville, replanter des haies, remettre en eau des tourbières, supprimer certains barrages sur les rivières ou créer des aires marines protégées. À la suite de la délibération en plénière du Parlement européen ce 12 juillet dernier, les eurodéputés ont adopté, avec 336 voix pour et 300 voix contre, la loi de restauration de la biodiversité. Les objectifs validés sont les suivants. Les États membres mettraient en place des mesures de restauration visant à remettre en bon état, d'ici à 2030, au moins 30% des habitats situés dans des écosystèmes terrestres, côtiers, marins et d'eau douce qui ne le sont pas. Cette disposition s'appliquerait à au moins 30% de la superficie totale des types d'habitats considérés comme n'étant pas en bon état, et non de la superficie pour chaque groupe d'habitat, comme le proposait initialement la Commission. Pour les zones d'habitat faisant l'objet de mesures de restauration, les États membres sont convenus de veiller à ce qu'aucune détérioration significative n'ait lieu. Et c'est là que ça se corse. Les États membres se sont accordés à reconnaître que les données concernant l'état de certains habitats sont insuffisantes, et qu'il est donc difficile de quantifier l'amélioration de l'état de ces habitats. Concrètement, pas assez de données, car les moyens humains et matériels pour la récolte de ces données, vous vous souvenez, les invisibles qui vont compter les écureuils dans la forêt, il n'y en a pas assez. On ne parle pas de plus grands moyens dédiés à la récolte des données, mais bel et bien de ne pas considérer les habitats dont la connaissance de la biodiversité est pour l'instant partielle. De même, le Pacte Vert contient des obligations spécifiques aux écosystèmes et le Conseil a ajouté de la flexibilité à ses premières mesures. Quand je vous parle flexibilité, il faut entendre que les impératifs de préservation et de restauration de plusieurs habitats ne sont plus quantifiés. En d'autres termes, il est demandé de faire mieux sans avoir de contraintes plus importantes. Les habitats dont la réglementation est assouplie sont pourtant bien importants pour une opération réussie. La mise en eau des tourbières, l'artificialisation des écosystèmes urbains, le suivi des écosystèmes forestiers sont ainsi rentrés dans un gant de velours au lieu de taper du poing. Cela semble de bon augure pourtant de prime abord, mais malheureusement cela ne traduit pas d'action concrète pour l'instant, car chaque État doit désormais définir un plan d'action. Celui-ci sera un plan d'action national, donc pour chaque État, à l'horizon 2032, et mis à jour tous les ans pour être présenté à la Commission de l'Environnement. Ce délai et cette liberté d'écriture sont, vous le comprenez bien, largement déclamés par les différentes ONG et organismes défenseurs de l'environnement. De même, l'adoption de la loi sera réalisée après discussion entre Commission parlementaire et État. Notons que nous avons plusieurs points qui ne sont plus d'actualité, tandis que d'autres sont concrètement peu définis. On retiendra ainsi des positionnements plus que surprenants de certains États s'opposant à des actions recommandées par l'Europe pour un avenir soutenable. L'État français ne fait pas exception, en se disant non favorable à des actions majeures, comme la création d'aires marines protégées dans les mers françaises. L'ambition de ce pacte vert est pour ainsi dire réduite, au gré des impératifs économiques immédiats, de groupes politiques réfractaires à une vision à long terme. Chères auditrices, chers auditeurs d'Ur de la Feuille, pour plus de détails, je vous invite à réécouter l'épisode 12 de notre série Feuille de Chou, portant sur la première version du pacte vert, ainsi que l'épisode 4, résumant les engagements de la COP, la Conference of Parties, sur la biodiversité, fin 2022. Prenons conscience que cette bataille pour le vivant ne fait que commencer et que réfléchir ensemble à l'échelle de l'Europe n'empêche en rien d'agir localement en faveur du vivant. Les initiatives sont déjà présentes. Inspirons-nous de projets qui ont déjà posé les premières pierres pour construire mieux notre avenir. Humons les idées des collectivités ayant participé depuis des années au concours capital de la biodiversité. Imprégnons-nous des réponses plus imaginatives que les autres à des appels à projets, des agences de l'eau ou de diverses ONG pour gagner en résilience dans les milieux où nous vivons. Ouvrons-nous à la possibilité que rien n'est perdu, qu'importe les décisions hâtives d'une minorité d'individus placées in extremis sur un podium éloigné de cette planète et de ses ressources qui tarissent. Ces mêmes individus qui rouspètent « c'est pas bientôt fini vos discussions écolo » en plénière de Parlement européen passent à côté de la mine d'or qui nous est donnée de réfléchir autrement et collectivement à un futur où l'humanité demeure une espèce parmi tant d'autres, où la curiosité n'est pas un défaut et où la valeur intrinsèque de chacun est inestimable. Le tonnerre gronde en cette période de grande chaleur. Que diriez-vous de tendre la feuille à la lecture d'un récit fantastique? Votre mission consistera à retrouver l'élément qui diverge du réel. Le gang des chevreuils rusés. Chapitre 3. L'alerte. Quelque part dans la forêt à la sortie du village.
On redescend vers le village en coupant à travers bois. Quand on arrive aux vignes, j'ai les bras écorchés par les buis et les églantiers. On doit avoir l'air hirsute en bondissant comme des petits chats. Nil sur mes talons, je franchis le mince canal d'un bond, traverse le jardin, ouvre la porte vitrée à la volée et débarque dans la cuisine tout essoufflée. « Tu es déjà debout, ma chérie ?» Ma mère vient juste de se lever. Ça se voit, elle est encore toute échevelée dans son pyjama, l'air absent, en train de se servir un café. « Tiens, bonjour, Nils. Mais attends, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ce n'est pas l'anniversaire de Laura aujourd'hui ?» Elle semble se réveiller d'un coup, reprend une gorgée de café et me regarde d'un air soupçonneux. « D'où vous venez comme ça, tous les deux ? Vous m'avez l'air bien excitée. » J'avais complètement oublié mon petit mot. J'étais censée être chez Madame Noël et certainement pas là-haut. Heureusement, ma mère ne l'a pas encore remarqué. Alors je le prends discrètement et le froisse dans ma poche. J'hésite, mais je suis trop impatiente de tout raconter, alors tant pis pour les conséquences, je me lance. « Maman, sur la route forestière, là-haut, c'est un carnage. Après le rocher, tu sais, là où on redescend quand on va chercher les pommes de pin avec papa. Ils ont mis un panneau et... Ils ont tout arraché, il y a un panneau de chantier !» m'interrompt Nils. « C'est énorme, il y a même des palmiers. » Sa voix monte dans les aigus. Calmez-vous tous les deux, vous allez me... Qu'est-ce qui se passe ici ? Dit une grosse voix mal rasée. Papa vient d'arriver et nous dévisage le sourcil froncé. Il est tôt et c'est déjà la zizanie. On l'a réveillé, la porte est encore grande ouverte. Maman en a oublié son café et Nils et moi, on a l'air de fous avec nos bras tout griffés. Quand on a fini de leur raconter tout ce qu'on a vu, les arbres disparus, le panneau avec l'hôtel adossé à la colline et l'ascenseur extérieur en forme de bulle vitrée et l'inscription « Golf Club ». Papa et maman ont l'air très très mécontents. Ils se regardent tous les deux avec cet air qui dit qu'ils vont s'en mêler, comme quand j'ai eu des soucis avec un garçon qui m'embêtait à l'école. Ensuite, ils mettent leur faux sourire, celui qu'ils prennent pour me rassurer, et nous disent de ne pas nous inquiéter, comme si on allait les croire, et d'aller jouer dehors, en oubliant au passage notre escapade. On l'a échappé belle. Nils et moi, on sort dans le jardin, mais on regarde par la fenêtre. On les voit discuter un peu à voix basse, et pendant que maman se refait un café, papa se met à passer des coups de fil. L'après-midi même, on retourne tous ensemble voir le panneau, avec mes parents et des voisins. Nils, cette fois, a été obligé de rester à l'anniversaire de Laura. Les adultes, elles s'exclament que c'est inconcevable, un scandale, et puis que ça va pas se passer comme ça. Ils s'emballent, font de grands gestes et commencent à discuter d'histoires de recours juridiques, de conseil municipal et de je ne sais quoi à la préfecture. Au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer, mais je ne peux pas aller à la cabane vu que c'est un secret. Alors, je m'assis sur une touffe de mousse et je m'oblige à patienter, en tournant le dos au carnage, sinon ça me rend trop triste.
Dans un idéal très pacte-verdien, il serait proscrit d'opérer de tels changements dans un espace boisé sans avoir une autorisation bien spécifique. C'est ce que le pacte vert, dans sa première version, imposait tout du moins.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi.
Des artistes campent fièrement dans un entre-deux imaginaire, utopique et ouvert à des alternatives pour notre monde, afin de questionner ce que nous attendons vraiment de notre existence sur cette planète. Quelles rencontres souhaiterions-nous avoir ? Qu'est-ce qui nous enrichit dans notre passage éclair sur ce bout de terre ?
J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre.
En 2022, les nuits des forêts ont rassemblé des centaines d'événements dans plus de 150 forêts publiques et privées partout en France. Plus de 25 artistes et passionnés de la forêt furent réunis à cette occasion dans la forêt de Fontainebleau. Avec le songe, Florian Mermin a enchanté un sentier forestier, transportant dans l'imaginaire d'une nuit d'été un monde peuplé d'énigmatiques créatures invitait ainsi les promeneurs et promeneuses à une déambulation au cœur de son antre, tel le faune, divinité champêtre à l'image du dieu grec Pan, devenu hôte de ces bois. À l'entrée de cet environnement ensorcelant, comme une introduction à l'onirisme facétieux de cet esprit de la forêt, l'installation participative de Carmen Bouillet a questionné les imaginaires de la forêt, en retournant la question aux visiteurs. À votre avis, à quoi rêve la forêt ? Cette question aurait aussi pu être adressée à Sarah Valente, dont l'œuvre s'est révélée sous une autre lumière à la tombée de la nuit. Au crépuscule, la lumière ultraviolette a transformé l'installation d'une invitation à voir le monde à travers les yeux d'un insecte. Car le plus petit d'entre nous peut créer des merveilles.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y'a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Tu y as pêché où, baobab, acajou ?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons en sortie de champ pour nous nourrir du vivant. Direction le Pérou.
Des lents de palissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.